Regard.
L'émission qui multiplie les points de vue.
En partenariat avec la scène nationale de Bourg-en-Bresse.
À écouter sur Radio B.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission Regard en partenariat avec la scène nationale de Bourg-en-Bresse. Une émission qui fait le lien entre la culture et les thématiques de société. Une émission dans laquelle nous posons nos regards sur des œuvres artistiques avec l'aide de Julie Duclou et des soirées Regard. Julie, bonjour.
Bonjour.
Et avec moi pour co-animer cette émission, Pascal et Rémi. Salut.
Salut. Salut Elodie, salut Pascal, salut Julie.
Radio B, Radio B.
Dans notre émission passée, on parlait du travail de médiation ou comment les artistes vont travailler avec les publics en amont, pendant ou même après leur spectacle. Émilie Lafarge, metteuse en scène de Fake, spectacle autour d'histoires d'amour à l'heure des réseaux sociaux, a travaillé avec des élèves du lycée Lalande à Bourg-en-Bresse. J'ai rencontré Léna, Sarah, Émila, elles m'ont expliqué le projet.
Déjà, on a travaillé sous la forme d'un mini débat où en fait on discutait donc des enjeux du texte, comment est-ce que nous les élèves on interprétait le texte et comment est-ce que elle le faisait. Après on a fait un travail d'improvisation, on pouvait choisir des scènes à plusieurs et du coup on passait devant les autres en vraiment en interprétant le texte ou alors en l'improvisant avec nos mots, notre manière. Et puis aussi on a fait des petits jeux où fallait par exemple, le dire façon western, avec une musique de cow-boy en fond, donc c'était très drôle. Et après, on a fait d'autres petits ateliers aussi pour se détendre, et elle nous a expliqué donc son métier, qu'est-ce qu'elle faisait, sur quoi est-ce qu'elle travaillait, etc.
On a appris beaucoup de choses par rapport au théâtre, on a fait plein d'exercices pour essayer d'être plus à l'aise à l'oral, et moins tendu, plus avec une position plus adapté, etc. On a fait des exercices, par exemple, on a dû ramener des musiques qui nous faisaient penser à l'amour ou qui nous faisaient penser à la tristesse et qu'elle, après, elle allait s'inspirer pour utiliser dans sa pièce pour mettre en son. Et après, elle allait utiliser un petit peu nos échanges aussi pour s'inspirer dans la mise en scène de sa pièce.
En fait, c'était vraiment surprenant parce que on s'attendait un peu à du jugement parce qu'on est dans une classe de lycéens, qu'il y a beaucoup de choses comme ça. Et en fait, pas du tout. Et au fil des jours, on a commencé à se détendre et vraiment se lâcher et profiter. Et c'était vraiment bien. Ça nous a appris beaucoup de choses sur nous-mêmes et comment faire pour se mettre dans la peau d'un personnage, exprimer la colère ou les choses comme ça.
Elles ont vu le spectacle avec leur classe, elles ont beaucoup aimé et au-delà de ça, l'expérience avec Émilie Lafarge en amont a pris tout son sens.
La première musique qu'elle a mise, c'est une musique qu'on avait proposée dans nos playlists. Du coup, ça, c'était intéressant. Et après, quand on avait travaillé, elle nous avait dit que sur scène, il n'y aurait aucun écran. Donc nous, on s'est dit, c'est bizarre comment elle va faire pour... Parce que c'est quand même une pièce, à la base, qui parle des écrans. Et en fait, moi, personnellement, j'ai été hyper impressionnée de voir comment elle avait... qu'elle avait réussi son pari. Et que ça rendait la pièce encore plus attrayante. Et on comprenait encore mieux vraiment le sens du texte.
Là, en fait, on a vu un peu le point de vue des personnes qui prennent la peau des autres. Et en fait, c'était intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est des motivations égoïstes et peut-être que c'est un peu le cas. Sauf que là, c'était plus par amour qu'elle voulait se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre et ça donnait un autre point de vue intéressant.
C'est assez intéressant parce que la désinformation, les fake news, c'est des thèmes qu'on aborde quand même très régulièrement, du coup, vu que c'est le thème principal de notre classe. Et en fait, ça suit ce projet-là et je trouve ça intéressant de voir, comme disait Léna, les deux côtés un petit peu des personnages.
Oui, parce qu'en fait, ça met du sens en fait, à ce qu'on apprend en cours et ça permet de voir comment ça se passe dans la vraie vie en fait, et que le théâtre, ce n'est pas uniquement ce qu'on apprend quelque chose de passé avant et que y en a encore actuellement et tous les gens qui travaillent dessus, c'est très intéressant. Ouais.
On pourrait dire qu'en fait, cette semaine-là, on n'a pas été en cours, on n'a pas appris grand-chose. En fait, moi, je pense qu'on a appris énormément déjà sur nous-mêmes et puis sur plein de thématiques. On a découvert plein de métiers du théâtre, la scénographie, le son, les lumières. C'était vraiment hyper enrichissant comme expérience.
Du sens, donc, pour les élèves, spectatrices et spectateurs en construction. De notre côté, on a assisté à la générale. D'ailleurs, merci de nous avoir intégrés au public. Alors, personnellement, moi, j'ai eu un peu de mal à rentrer dans l'histoire. J'ai trouvé l'écriture, justement, encore un peu trop figée, trop théâtrale. Mais toi, Rémi ?
Et alors, puisque tu étais à leur rencontre... Je t'en ai peut-être parlé un petit peu avec elle, mais est-ce qu'elles se sont retrouvées en fait dans la figure de ces ados ?
Ouais, alors elles, comme je le disais tout à l'heure, elles ont beaucoup aimé. Je les ai interrogées sur ce que j'ai ressenti, moi, le fait que l'écriture soit peut-être un peu trop théâtralisée, un peu trop écrite, justement. Enfin, pour nous, en plus, à la radio, on a l'habitude d'avoir une écriture très orale. Je trouvais que l'écriture était vraiment assez figée. Elles ne l'ont pas du tout ressenti. Okay, ouais. Je pense que le fait d'entendre la musique qu'elles avaient choisie, le fait d'avoir travaillé déjà avec la metteuse en scène, d'avoir déjà été plongées dans l'univers, je pense que ça les a embarquées. Puis elles sont vraiment restées sur l'histoire d'amour entre les deux personnages.
Finalement, c'est presque rassurant, parce que moi, j'aurais pu me projeter en fait, dans cette vision en fait, de l'adolescence il y a 20 ans. Donc peut-être que sur certains points, la jeunesse évolue... Sommes toutes assez lentement.
Peut-être que les générations sont plus proches que ce qu'on imagine, en fait.
Ouais.
Et puis, alors, elles le disent aussi hein, dans ce qu'on a enregistré, le sujet de l'usurpation d'identité, de la manipulation. Ça, c'est un super outil pour entamer des conversations. Quand on est sorti du spectacle, on a croisé des parents avec des ados qui avaient vu le spectacle. A priori, certains n'avaient pas compris vraiment l'histoire. D'autres étaient plutôt emballés.
Et pourtant, l'actualité nous montre, comme ces derniers jours, que l'usurpation d'identité, ce n'est pas forcément l'apanage des plus jeunes. Quoi. C'est, quel que soit l'âge, on peut bien se faire avoir. On a eu l'affaire avec Brad Pitt récemment. C'est assez impressionnant. Quoi.
Oui, on rappelle aux auditeurs, auditrices, si jamais Brad Pitt vous contacte depuis une chambre d'hôpital, Brad Pitt, George Clooney ou je ne sais qui, faites attention avant de répondre. Julie, est-ce que du côté de la scène nationale, vous avez eu des retours ? Parce que j'imagine qu'il y a plein de classes ou quelques classes qui ont vu le spectacle ?
Alors, le spectacle a continué ensuite après la première que vous avez vue, qui était la générale. Et il a continué sur une séance tout public en nos murs, mais aussi sur des séances en scolaire au lycée Lalande et au lycée Caria. Et ensuite, la troupe a continué son chemin et ils sont partis du côté de Roanne, continuer à présenter le spectacle en salle et en lycée. C'est un spectacle, comme tu le dis, un peu frais. C'est quelque chose... il venait vraiment de sortir après 5 jours de résidence. Il y a déjà des choses qui ont changé entre ce que vous avez vu et ce que nous, on a vu après, puisque, en fait, la continuité de l'écriture est là. Pardon, Émilie, il porte un vrai intérêt. Et c'est vraiment très important pour elle dans la façon dont elle travaille, comme elle a vraiment travaillé déjà en amont en résidence et continue d'ajuster au fur et à mesure des représentations et des retours publics, et essentiellement du retour des jeunes. L'idée a été d'ajuster également une scénographie qui soit... entendable de partout et qui soit surtout adaptable même en milieu scolaire, d'où les deux tables qui ressemblent à des pupitres d'école. Alors, on peut être un petit peu dans un premier temps, mais qu'est-ce que c'est que cette scéno ? Et au final, elle a un sens par rapport à la légèreté de la forme qui se veut vraiment mobile de partout. Le plus dur pour elle remettre, en tout cas dans un espace d'école, c'est la lumière qui a une réelle importance dans la pièce, puisqu'elle donne vraiment la parole à l'une et l'autre des deux comédiennes au plateau. C'est le dispositif le plus compliqué, le plus complexe pour eux à déplacer, mais ça y est, ils ont trouvé des solutions, et en plus, ils ont un technicien maintenant qui va avec eux, avec la troupe, sur les différentes représentations et du coup qui donne vraiment entre guillemets la parole à la lumière qui a un rôle important aussi important que la musique et que le jeu des actrices. Alors tout s'affine au fur et à mesure. Personnellement, j'aimerais le revoir dans un moment pour voir comment il a évolué, comment le spectacle prend en maturité au fur et à mesure des représentations. C'est un spectacle que j'ai trouvé, moi, très physique pour les comédiennes, au-delà du propos qui vraiment rentre dans leur jeu jusqu'au bout des doigts de pied, des ongles, des cheveux. C'est très prenant. Donc, voilà, il faut, je pense que... Je veux bien le revoir dans quelques mois en ayant vu tous ces éléments qui vont l'enrichir.
Et pendant qu'on est sur les retours, un petit mot sur le travail de François Hien et les spectacles Éducation nationale. Encore une fois, quelle précision dans ce qu'il nous propose. Hein. C'est assez magique. Les personnages sont vraiment réalistes, incarnés à la perfection. Ouais. Enfin, ça, c'est mon point de vue. Vraiment, j'ai eu l'impression, moi, d'être au cœur de la machine.
C'est des portraits typiques. Enfin, on est dans la salle de classe. Puis la scénographie avec les murs qui s'ouvrent, les murs des salles de classe. On arrive dans la salle des profs. Puis dans le bureau du proviseur, enfin c'est...
Et puis une simplicité sans oublier personne, personne, aucune voix n'est oubliée,
on a même les agents d'entretien.
C'est ça, et qu'on soit pour ou contre une position ou une autre, on entend tous les points de vue et c'est la magie de François Hien. Moi, c'est celle que je trouve assez géniale. Après, en ayant vu la pièce, je ne sais pas vous, mais le groupe de chorale avait l'air assez intéressant par rapport au prof de musique qui propose en permanence, enfin, le prof de maths, pardon, qui propose le groupe de chorale. C'est sous ces petites touches-là qui font un mouvement, et puis en plus, la partie. Des jeunes au plateau.
Oui, et alors, moi, il y a juste un truc que j'ai regretté. Pendant que je regardais le spectacle, je me suis dit, c'est dommage que je n'ai pas un micro, parce que j'aurais bien aimé questionner les publics qui ont assisté à ce spectacle, parce qu'autour de moi, j'ai quand même eu la sensation d'avoir beaucoup de gens issus de l'éducation nationale. Hein. J'ai entendu des profs derrière moi parler de leurs élèves. Un peu plus loin, j'ai reconnu des copines qui sont profs. Bon, bref, j'avais l'impression d'être au cœur du système, et c'est un peu le propos du spectacle, c'est de nous amener au cœur du système, de nous faire rentrer dans les coulisses. Voilà. Mais du coup, des personnes qui ne seraient pas profs, proviseurs principaux, conseillères d'éducation ou que sais-je, comment ce spectacle leur parle et qu'est-ce qu'ils en retiennent? Voilà, moi, c'est ça qui m'intéresse.
Même les parents, finalement, parce que les parents sont présents, mais... C'est léger, quoi. C'est sous l'angle du conseil de discipline où finalement les parents arrivent, mais en étant un peu jugés. Ils ne comprennent pas les codes. Alors ici, François Hien va même plus loin, vu que c'est les parents qui parlent pas. Enfin, c'est une maman qui ne parle pas français. Donc non seulement il n'y a pas les codes sociaux de l'école, mais en plus le langage n'est pas là et c'est le fils qui fait la traduction. Et vous savez que moi, quand j'y ai été aussi, j'ai reconnu quand même des collègues. À côté de moi, il y avait des principaux et des personnels de direction. Et par contre, j'ai eu des échos de personnes qui n'étaient pas profs, quoi, qui étaient vraiment en dehors de ça. Il y avait quand même quelques incompréhensions pour eux. Ils ne comprenaient pas pourquoi est-ce que ça rigolait à tel endroit précis. C'est des situations réelles, quoi. Mais après, on peut se demander, est-ce qu'il y a encore vraiment du monde qui est hors système? Enfin, l'école, on peut dire aussi que tout le monde la connaît, quoi. On est tous passés par l'école, on a tous fréquenté l'école.
Oui, alors justement, moi ça me questionne en tant que parent. Du coup, moi, j'ai vu ce spectacle en tant que parent, mais aussi en tant qu'intervenante dans les établissements scolaires. Donc, nous, on a l'habitude d'entendre ce que peuvent dire les profs là, dans ce spectacle. Mais je me suis dit, je trouve qu'aujourd'hui, les parents sont quand même hors de l'école. Il y a l'ENT aujourd'hui, hein, tu communiques avec le prof par le biais de l'ordinateur. Tu le vois même peut-être plus jamais. Si tu ne vas pas à la réunion parent-prof parce que tu n'es pas dispo, ben, tu ne le verras peut-être pas de toute l'année, le prof de ton enfant. C'est quand même ces énormes portiques à l'entrée des lycées.
C'est fou, qui
marque le territoire. Voilà, donc bon, moi j'ai trouvé que c'était intéressant quand même ce spectacle parce que c'est comme si on rentrait en fait dans la salle des profs qui est quand même le lieu inaccessible. Enfin, je veux dire, si on remonte dans nos souvenirs d'élèves au collège ou au lycée, quand il fallait aller chercher un prof en salle des profs, c'était quand même l'expédition. Tu osais à peine toquer à la porte, puis une fois que tu étais rentré, tu étais là, waouh, où suis-je, quoi. Enfin, c'est quand même un univers assez particulier. Hein.
Il y a même des profs assez jeunes dans le métier qui, eux, n'osent pas trop non plus rentrer en salle des profs. Quoi. Ils se cantonnent au couloir ou tiens, le CDI à côté de la salle des profs, c'est un peu plus sympa, plus accueillant. Il y en a, quoi. Moi, quand je bossais dans des lycées, j'ai jamais mis le pied en salle. Alors, j'étais surveillant l'an dernier, j'avais quand même le statut finalement de prof, mais j'ai pas mis le pied en salle des profs. Quoi.
Et puis tout est dogmé. Puis à l'intérieur même de la salle des profs, il y a le côté des profs de français qui ne parlent pas forcément aux profs de maths, les agrégés, les non-agrégés, les remplaçants. Et donc,
les syndiqués.
Il y a un petit peu tout ça. Alors, juste pour rebondir sur vos propos, n'hésitez pas à aller rechercher sur Internet. Il y a un super groupe de recherche du CNRS de Lyon qui travaille justement sur le lien bâti. perméabilité de l'école entre les enseignants, les enseignements et les différentes structures et même le lien à l'architecture même des bâtiments. C'est vraiment tellement intéressant. C'est une mine d'éléments qui nous permet justement d'avoir des clés de compréhension sur justement ce qui va se créer à l'intérieur de l'école, les dynamiques et les relations qui s'y créent de par le bâti.
Et c'est un élément central finalement de l'école. Enfin, je sais qu'on parle de contrat pédagogique ou contrat didactique, c'est-à-dire qu'en fait l'école, c'est pas juste l'école le lieu, quoi. C'est les élèves, les profs, et puis il y a aussi les parents, quoi. Et c'est vrai qu'on peut souvent avoir tendance à l'oublier cet élément. Mais dans la pièce, François Hien a essayé quand même de contrebalancer ça pour pouvoir s'adresser à des novices. Je ne sais pas si tu as pris le livret à l'entrée, mais il y avait en fait un glossaire de tous les termes un petit peu barbares. DHG,
tous les acroniques sont mis au dos de la feuille de salle où il y avait vraiment tous les éléments pour ne pas en perdre une miette comprendre un petit peu ce jargon qui est spécifique à l'éducation
nationale. Il n'y en a pas un seul qui a été oublié à la fin. Je me suis dit, tiens, est-ce qu'il y en a un? Puis dès que j'entends un signe, je me dis, ah, celui-là. Et puis après, c'est dessus.
Finalement, moi, j'ai trouvé que la première partie était assez dense. En fait, ce que je me suis dit pendant la première partie, c'est que j'étais comme si je regardais un documentaire d'Arte. Vous savez, ces moments où tu es devant ton documentaire Arte, tu découvres quelque chose. Alors souvent, c'est assez traumatisant ce que tu découvres.
Sans voix off.
Et tu assistes à la peinture du système de l'éducation nationale. Et en gros, c'est la merde. Hein. C'est la galère. Et t'as une deuxième partie qui va te redonner peut-être un peu d'espoir, mais qui est très très courte, moi j'ai trouvé. Et c'est peut-être ce que je reproche un peu à ce spectacle, c'est que la partie où on a besoin de ça, celle d'ailleurs qui a le plus plu, je pense, aux plus jeunes, pour en avoir discuté avec des jeunes qui ont vu le spectacle, c'est ce qu'elles ont préféré, qui est là un peu la plus rock'n'roll, on va dire. Elle est très courte, cette partie-là. Ouais. Je trouvais que ça, c'était dommage.
Mais tu parlais d'Arte, moi je te dirais presque que c'est comme un documentaire animalier. Tu es dans la savane, tu vois les animaux évoluer, ils bouffent, la partie la plus intéressante, la plus tendre, c'est le moment où tu as la femelle qui met bas. Et puis après, une fois que c'est arrivé, c'est fini, quoi, le documentaire est fini. Donc il y a presque un parallèle là-dessus. Quoi.
Après, François Hien est issu du documentaire. Ouais. À la base, c'est sa formation. Donc on a toujours une vraie positionnement de mise en situation qui permet justement ce petit moment-là. Alors, est-ce que plus court en premier permettrait d'avoir un deuxième parti lumineux? Je ne sais pas, je ne suis pas ni dramaturge, ni j'écris des pièces. Mais je me dis qu'il y a aussi ce côté-là qui est intéressant dans la dynamique. Après, malgré tout ça, en tout cas, quand je l'ai vu, les 3 heures de spectacle, je ne les ai pas vues passer.
Non, c'est clair.
C'est ça qui est assez, assez hallucinant sur ce travail. Et pourtant, toutes les pièces sont à chaque fois assez longues et on ne les voit pas passer et on apprend des choses. Et on continue à en parler d'ailleurs longtemps après.
Mais finalement, tu dis qu'on ne voit pas le temps passer. Moi, je n'ai pas vu le temps passer. Mais est-ce que finalement, quelqu'un qui serait un peu plus hermétique, qui viendrait moins souvent au théâtre, lui, pour le coup, ne trouverait pas ça long?
Alors, je n'ai pas eu ce retour personnellement, puisque tous les gens avec qui j'ai pu échanger étaient ou des convaincus, ou ça y est, des fans, puisqu'on commence à avoir présenté quelques-unes des pièces de la compagnie. Ouais. Donc, je n'ai pas eu ce retour-là. En tout cas, j'ai toujours eu les retours des gens qui sont venus en ayant eu envie de le voir. Ouais. J'aurais bien aimé avoir un retour, justement, par exemple, une classe qui vient voir le spectacle sans de préparation au préalable ou sans être vu, ou comme vous dites, des gens qui ne sont pas forcément convaincus à la base, ni du propos, ni de la pièce. Ça, personnellement, j'en ai pas eu.
Après, il y a peut-être une appropriation aussi des codes, c'est-à-dire que comme certains ont les codes pour rentrer dans l'école, d'autres vont avoir finalement les codes du théâtre pour pouvoir se dire, ouais, je peux suivre pendant 3 heures, je sais, il y a un moment, il y aura peut-être une pause, enfin, une approche quasiment...
Mais c'est ça qui a réfréné pas mal de public, en tout cas. Et pourtant, on a plusieurs spectacles un peu longs qui ont été présentés dernièrement, pour lesquels les gens sont au final repartis enthousiastes. Donc peut-être que ça va aller... leur donner envie, en tout cas, de venir découvrir d'autres formes qui vont arriver dans l'année et dans la saison prochaine, et d'une autre manière. Et c'est pas mal de bouger un peu les codes et de ne plus se limiter au format court qu'on a de partout, l'immédiateté. Mmh. En une seconde, on doit tout avoir vu en une minute sur nos téléphones. Donc, c'est intéressant aussi de reposer, je trouve, les propos.
Et alors, tu disais que toi, tu avais préféré la deuxième partie, Elodie. Mais en fait, comme pour la crèche, il y a un élément qui était assez intéressant, c'est-à-dire que la première partie, on était vraiment dans du frontal, c'est-à-dire qu'on était dans notre siège, on regardait en face de nous, on voyait ce qui se passait, alors que dans la deuxième partie, ben, le débat en fait commençait sur le côté droit et sur le côté gauche dans la salle, quoi. C'est un peu comme les différentes pédagogies qui peuvent exister en classe, quoi. On a la pédagogie, l'approche bien frontale. D'ailleurs, il y a une scène là-dessus dans la pièce, quand on a l'inspectrice qui veut avoir un enseignant, ou bien la posture finalement plus en groupe, plus participative, avec quelque chose, une autre posture d'enseignant. Finalement, on retrouve dans une classe la même chose que dans une salle, de spectacle, quoi.
La comédie humaine.
Ouais.
on aimerait bien, si des auditeurs, auditrices ont assisté au spectacle et qu'ils ne font pas partie de l'éducation nationale, si vous voulez nous envoyer des retours, moi ça m'intéresserait. Donc n'hésitez pas, hein, vous pouvez nous contacter à Radio B.
Je m'appelle Moussa, j'ai 10 ans, je suis en CM2 à Épinay, ville du 93 où j'ai grandi et où je suis né. Mon école, elle est mignonne, même si les murs sont pas tout neufs. Dans chaque salle, il y a plein de bruit, moi dans ma classe, on est 29. Il y a pas beaucoup d'élèves modèles, puis on est un peu dissipés. Je crois que nous sommes ce qu'on appelle des élèves en difficulté. Moi en maths, je suis pas terrible, mais c'est pas pire qu'en dictée. Ce que je préfère, c'est 16h, je retrouve les grands dans mon quartier. Pourtant ma maîtresse, je l'aime bien, elle peut être dure mais elle est patiente. Et si jamais je comprends rien, elle me réexplique, elle est patiente. Elle a toujours plein d'idées et plein de projets pour les sorties. Mais on a que 2 quarts par an qui sont prêtés par la mairie. Je crois que mon école, elle est pauvre, on n'a pas de salle informatique. On a que la cour et le préau pour faire de la gymnastique. À la télé, j'ai vu que des classes faisaient du golf en EPS. Nous on a que des tapis, des cerceaux et la détresse de nos maîtresses. Alors si tous jouent à l'école, il est temps d'entendre le SOS. Ne laissons pas se creuser le fossé d'un enseignement à 2 vitesses. Au milieu des tours, il y a trop de pions dans le jeu d'échecs scolaires. Ne laissons pas nos rois devenir fous dans des défaites spectaculaires. L'enseignement en France va mal, personne ne peut nier la vérité. Les zones d'éducation prioritaires ne sont pas des priorités. Les classes sont surchargées, pas comme la paye des profs minés. Et on supprime des effectifs dans des écoles déjà en apnée. Au contraire, faut ajouter des profs et d'autres métiers qui prennent la relève. Dans les quartiers les plus en galère, créer des classes de 15 élèves. Ajouter des postes d'assistants ou d'auxiliaires qui aident au devoir, qui connaissent les parents et accompagnent les enfants les plus en retard. L'enseignement en France va mal, l'État ne met pas assez d'argent. Quelques réformes à 2 balles pour ne pas voir le plus urgent. Un établissement scolaire sans vrais moyens est impuissant. Comment peut-on faire des économies sur l'avenir de nos enfants? L'enseignement en France va mal car il rend pas les gens égaux. Les plus fragiles tirent l'alarme mais on étouffe leur écho. L'école publique va mal car elle a la tête sous l'eau. Y a pas d'éducation nationale avec des moyens de survie locaux. Alors continuons de dire aux petits frères que l'école est la solution.
C'était Grand Corps Malade, éducation nationale. Alors en fait, c'est quand même un titre qui date de plus de 15 ans, 2009, tu vois. Donc, et pourtant, toujours terriblement d'actualité.
Et puis, un petit retour sur la soirée Regard, puisqu'il y a eu une soirée Regard au mois de janvier.
C'était le mardi 28 janvier au théâtre. J'aurais dû y aller avec Pascal, mais les contraintes dans l'agenda ont fait que ce n'était pas trop possible, Pascal. Je suis désolé. Et oui.
Donc c'était une soirée Regard qui s'appelait Histoire de corps et qui était donc co-animée par Julie, mais aussi Altec,
oui,
qui était
ça,
là, Guillaume d'Altec, voilà, et qui accueillait lors de cette soirée Regard donc François Vérune, qui est chorégraphe de la compagnie 47-49, et Michel Coltis, qui était professeur d'EPS, mais aussi chercheuse universitaire, voilà, qui a fait une recherche notamment concernant l'approche du sport par le genre.
Complètement.
Et on est parti, Enfin, vous nous avez emmenés dans un dialogue très intéressant entre ces deux interlocuteurs, notamment avec, en partant du corps dans la danse comme média, une médiation. Et ils ont pu dialoguer sur ce que pouvait dire le corps dans l'espace par ses vibrations, ce qui pouvait être mis en scène, exprimé via le corps. Michel Coltis a pu amener au-delà de la danse aussi l'approche genrée dans les différents sports, et elle en a donné pas mal d'exemples. Donc je crois qu'on va entendre maintenant Rémi, des jeunes qui ont pu réagir à l'issue de la soirée débat.
C'est ça.
Parce qu'il y avait beaucoup de jeunes, beaucoup de classes dans lors de cette soirée regard, notamment des jeunes de classe du lycée Quinet, de la seconde à la terminale, ceux de l'option théâtre.
Ouais, ils viennent régulièrement, que ce soit sur les spectacles ou sur les soirées regard, de plus en plus, avec leurs professeurs respectifs. Donc, elles viennent montrer d'autres choses. Et en plus, c'était vraiment intéressant parce qu'ils ont réellement réagi. C'est eux qui ont porté l'échange à la fin. Entre le public et les intervenants. Il a vraiment été porté par les jeunes, donc c'était très agréable. Une salle bien comble avec, pour le coup, plein de générations.
En tout cas, on voit que le questionnement était riche, a priori, après la soirée.
Ça a renforcé déjà des idées que j'avais par rapport au fait de la posture et du jeu du corps sur scène. J'ai aussi appris que, notamment... il y avait beaucoup de stigmatisation du corps au sport, à travers les pratiques sportives, au lycée, qu'il y avait certaines disciplines plus pour les filles, d'autres qui étaient plus pour les garçons, et que ça restait quand même encore vachement cadré malgré la société
actuelle. Qu'est-ce qui fait sens dans nos vies ? Qu'est-ce qui fait sens dans un projet artistique et culturel ? Qu'est-ce qui fait sens dans un projet artistique ? Qu'est-ce qui fait sens pour une programmation d'un théâtre ? Qu'est-ce qui fait sens dans la politique ? Qu'est-ce qui fait sens dans la vie de famille, dans le couple ? Enfin bref, la question du sens... Elle est majeure.
J'ai trouvé ça hyper intéressant, comment ils nous ont rappelé que c'était très très important de prendre conscience de son corps, mais continuellement, comme il change tout le temps, et surtout que ça nous permettait déjà de donner l'illusion de s'affranchir des limites qu'il avait, donc notamment la gravité comme il expliquait, mais aussi de pouvoir en faire ce qu'on voulait, de mieux pouvoir le manier, le diriger, et ça parle énormément du coup aux acteurs, etc., parce que tout se passe avec le corps, avec les formes.
Quand on voit un être humain, finalement, c'est quoi le cerveau, il pèse quoi, 3 kilos, 5 kilos, j'en sais rien, et le reste, c'est le corps. Donc l'idée, c'est que, enfin, je prends une proportion, une entrée banale, mais pour dire que le corps a une importance phénoménale en termes de présence, en termes de vivant, ou tout simplement, et que grosso modo, dans la société dans laquelle on vit, on est quand même beaucoup dans la tête. Notre société, en tout cas en Occident et en France particulièrement, on est quand même des mentaux. Le mental prend une place énorme, alors qu'en fait, finalement, on sait qu'à peine 8% de ce qui est évoqué, dont je vous parle tout de suite, on en capte que 8%.
J'aurais bien voulu qu'il parle plus justement de à quel point les constructions sociales et de genre impactent notre façon de bouger notre corps, alors que vraiment c'est notre propriété, on devrait être capable de le diriger complètement à notre volonté.
Que le corps, c'est vraiment un instrument pour pouvoir communiquer, pouvoir parler et vraiment pouvoir s'exprimer. Du coup, c'est quasiment 80% de ce qu'on va dire, ça passe par notre expression corporelle.
Alors, comme on peut l'entendre, questionner le sport, c'est aussi questionner le rapport du corps au sport. Et quand je dis corps, c'est comment questionner le rapport du corps féminin et du corps masculin au sport. Ça ouvre des débats encore plus vastes et ça peut même raviver des souvenirs ou ouvrir des perspectives, comme l'assignation de genre ou l'assignation de corps qu'évoque ici Michel Coltis.
L'assignation, pour moi, c'est un mot qui n'est pas venu dans l'explication. Il y avait beaucoup de jeunes, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas prononcé. Il est très important. Donc à partir du moment j'ai travaillé beaucoup à la fin de ma carrière, ma recherche portait sur les stéréotypes de genre dans le cadre de l'éducation physique des jeunes à l'école, hein. Donc l'assignation, vraiment, c'est quelque chose qui est terrible au niveau de la construction d'une personne. À partir du moment où on est assigné à un endroit, il n'y a plus de mouvement. L'assignation stoppe le mouvement. Or, tout ce qu'on a dit ce soir, c'est que le corps, c'est du mouvement, c'est de la transformation permanente. Le genre, on se le construit tout le temps. Donc, c'est vraiment à la fois, ça peut alarmer, faire peur, mais à la fois, c'est aussi un côté très positif de soi. C'est-à-dire que même quand on vieillit, je prends mon cas, eh bien, même le corps vieillissant, qui met des contraintes dans le corps, eh bien, cette transformation naît des nouvelles adaptations et une découverte aussi d'une autre façon, soit de se tenir, soit de faire les choses. Et on est toujours en transformation de soi.
Les soirées regard, Pascal, finalement, c'est toujours une grande ouverture d'esprit et ça donne un beau panel de réflexion quand même.
Ah oui, complètement, complètement. Alors moi, je dois dire que ce qu'ont exprimé les deux intervenants, mais aussi les questions et les retours des jeunes qui sont plus, qui étaient sur une position de, enfin, oui, plutôt eux de comédiens, enfin, en tout cas, ils sont plutôt ceux qui étaient interviewés dans la question du corps sur scène et de ce qu'on montre. Enfin, vraiment, ça, c'était vraiment très enrichant. Moi, je retiens cette notion. J'avais pas du tout ce regard-là. Ça m'a vraiment ouvert sur le corps est quelque chose qu'on se construit en fait, et que même si ça nous semble être une entité figée qu'on nous donne à la naissance et qui évolue, enfin qui grandit avec nous, il y a la notion toujours de transformation. Et ça, notamment Michel Coltis, mais aussi François Vérune ont beaucoup insisté là-dessus. C'est qu'on a, on n'est pas qu'un mental, qu'un manteau, qu'un mental, qu'un cerveau. On a aussi le corps, un corps qu'on peut faire vivre, qui s'exprime d'ailleurs principalement. Et voilà, le corps nous raconte, voilà. Et parfois même à l'issue de notre plein gré.
Merci pour ce retour sur cette soirée très, très riche. Et du coup, ça nous permet d'anticiper sur les prochaines soirées. Un petit tour du côté agenda, hein, parce que ce n'est pas fini. Hein. On va continuer à échanger, débattre et se rencontrer au Théâtre Scène Nationale de Bourg-en-Bresse. Alors, les prochains rendez-vous, Julie, qu'est-ce qui nous attend ?
Alors, encore une fois, un mois de février dense et riche avec beaucoup de propositions différentes. On est toujours sur la thématique génération. Cette semaine se joue en catimini dans la petite salle en haut à Jean Villard un spectacle jeune public que je vous invite à venir découvrir d'une compagnie locale qui s'appelle Et Maintenant. Et puis nous avons au grand plateau Kerry James que tout le monde connaît, ouais. Qui va jouer mercredi et jeudi soir. Non, jeudi et vendredi, pardon, excusez-moi. Du coup, une vraie histoire à la Kerry James avec une installation scénique assez intéressante et assez improbable avec une vidéo qui tourne autour des acteurs. Enfin, je vous invite à venir le découvrir. La semaine prochaine, encore une tête d'affiche puisque nous accueillons un seul en scène de Clémentine Sélarier. Qui vient toujours avec une scénographie minimaliste et dans sa petite valise quasiment tout tient et une grande dame au plateau toujours intéressant. Pour celles et ceux qui restent dans le coin pour les vacances, vous regarderez sur le site, il y a nos artistes locaux, l'Arbre Canapas, qui sort de résidence et qui propose au public de venir assister à cette sortie de résidence de leur prochaine production qui s'appelle « Eidolon ». Et pour la prochaine soirée regard qui est juste après la fin des vacances scolaires, puisqu'elle se déroule le 11 mars, on va changer complètement de registre puisque ce sont les jeunes qui auront la parole. C'est une soirée que nous avons préparée en partenariat avec la MJC Popcorn. Et c'est le groupe de dessin de la MJC de dessin manga qui a pris les commandes. Et nous aurons au plateau une cosplayeuse réputée, un journaliste spécialiste du manga et on vous invite à venir costumer puisque nous aurons un podium des Lumières pour pouvoir présenter tous les costumes et notre lien à ces genres nouveaux et au Japon qui fait aussi écho avec tout ce qui se passe dans nos médiathèques en ce moment puisque Bourg-en-Bresse est teinté du Japon et de ses couleurs depuis quelques temps.
Donc ça, c'est la soirée regard du mois de mars. Tu peux nous redonner la date ?
Alors, c'est le 11 mars et cette fois, elle est délocalisée. Je répète, elle est à la MCC, à la Maison de la Culture et de la Citoyenneté, à 19h le mardi soir. Et encore une fois, c'est une invitation à venir costumer.
Eh bien, on se retrouvera peut-être costumés à la MCC le mardi 11 mars, à la Scène Nationale de Bourg-en-Bresse pour toutes les autres propositions, et puis sur les ondes le mois prochain. D'ici là, continuez à aller voir des spectacles, à écouter des émissions de radio, à lire, à rencontrer les autres, à échanger. Merci à tous et à bientôt.
Au revoir.
À bientôt. Merci.
Regard.
L'émission qui multiplie les points de vue.
En partenariat avec la scène nationale de Bourg-en-Bresse.
À écouter sur Radio B.